Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Père Charles Bonin.
Bonjour Nathalie.
Alors, ravie de vous retrouver. C'est un troisième rendez-vous dans cette série d'entretiens dans des clés pour vivre. Vous avez écrit ce livre et c'est l'objet un peu et le thème de toutes ces émissions. Faut-il se préparer à la fin des temps et espérer à la lumière de l'Évangile aux éditions Arthège. Je vais vous proposer d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Dans votre livre, vous évoquez la question de l'apostasie. Avec cette question autour de l'apostasie, vous parlez aussi de la figure de l'Antichrist. Il serait bon, peut-être, de remettre un peu à jour, voilà, cet antichrist, qui est-il dans ce troisième millénaire avec une actualité qui brûle aujourd'hui, actualité internationale, nous le rappelons aussi avec cette guerre qui sévit au Moyen-Orient. Il est où, il est comment l'antichrist? Comment va-t-il se présenter? Donnez-nous un petit peu un éclairage précis pour que, au moment des événements, puisque vous l'avez rappelé, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, voilà, mais vous nous invitez à cette prudence, à cette sagesse aussi de discerner les faux docteurs, des vrais docteurs, des faux témoins. On en est où aujourd'hui dans ce discernement de l'antichrist ou des antichrists? Merci à vous.
Alors merci pour cette question difficile et importante. L'antichrist, il en est question dans la première lettre de Jean, c'est lui qui en parle en disant que l'antichrist c'est celui qui nie le Père et le Fils, donc qui est une figure antitrinitaire, opposée à Dieu et qui est habitée par le mensonge et cette hostilité à Dieu, d'où le terme antichrist. Et on peut rapprocher cette première lettre de Jean de la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 4 en particulier, où il parle également d'un être d'impiété, hein, l'homme sans loi, la nomos en grec, donc celui qui est contre la loi, enfin qui est sans loi et opposé à la loi. À quelle loi? La loi naturelle, la loi de Dieu, et qui va se faire passer pour Dieu. Donc qui est menteur, qui n'est pas seulement opposé à Dieu, mais qui est également menteur et séducteur parce qu'il se fait passer pour Dieu et il va accomplir des prodiges matériels pour séduire en apportant une forme de solution à tous les problèmes contemporains. Donc le catéchisme de l'Église catholique en parle d'une manière très claire en son paragraphe 675 que je vais vous lire parce qu'il est très éclairant sur la situation dans laquelle on peut être et puis cette réalité de l'antichrist. Donc je vous le lis. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle donc l'apostasie, dont parle également Matthieu dans son chapitre 24. Je continue ce paragraphe 675 du catéchisme de l'Église catholique. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Voilà, tout est dit pour décrypter cette figure de l'antichrist dont Jean lui-même, dans sa première lettre, nous dit qu'il y a déjà eu des antichrists et qu'il en viendra un ultime avec un A majuscule. Mais l'antichrist, ce sont tous ces systèmes qui finalement vont nier Dieu, s'opposer à Dieu et séduire par une fausse prétention de sagesse dans une imposture qui détourne de la vérité et qui est opposée à la loi même de Dieu. Donc ça peut être incarné par des personnes et tout au long de l'histoire, on a voulu reconnaître dans l'antichrist tous les tyrans de l'histoire. Ça a commencé par Néron et puis ensuite Hitler, enfin voilà, tous ceux qui étaient honnis par les populations, on leur a attribué cette figure de l'antichrist, mais voilà, c'est d'abord tout système de pensée qui peut être incarné effectivement par des personnes et qui, à la fin des temps, sera synthétisé d'une certaine manière par une personne qui incarnera toute cette imposition posture religieuse et spirituelle qui se fait passer pour Dieu en prétendant apporter au monde eh bien, toutes les solutions à ses problèmes matériels pour le détourner de la vraie foi. C'est l'homme qui se fait Dieu contre Dieu et pour lui-même. Donc c'est vraiment le paroxysme de... voilà, de l'athéisme, ou de l'humanisme athée, plus précisément.
C'est celui qui prend la place de Dieu.
Tout à fait, c'est celui qui prend la place de Dieu, ce qui a toujours existé, hein, puisqu'on le voit dans la tour de Babel, hein, dans la Genèse, hein, l'homme qui veut se faire Dieu, qui a cette prétention de prendre la place de Dieu, et puis on le voit beaucoup dans des idéologies humanistes athées qui, en fait, privées de transcendance, eh bien, exaltent l'homme au point de mépriser Dieu.
Que signifie concrètement, et là je pense à ceux et celles qui vous suivent, qui découvrent peut-être aussi un peu ce monde-là qui est parfois un peu étranger, celui de se préparer à la fin des temps, au fond, être à l'écoute de cette fin de temps, c'est être à l'écoute en permanence et ne pas perdre de vue qu'il y a une conversion à opérer individuelle, personnelle. On est bien d'accord, Père Charles Bonin ?
Oui, tout à fait. C'est que le Jésus nous invite à lire les signes des temps. Et le Concile Vatican II a repris cette expression en invitant les chrétiens à être attentifs à la réalité matérielle, temporelle qu'ils vivent, non pas pour utiliser la parole de Dieu et la plaquer sur cette réalité, mais en lisant la réalité, l'actualité, avec ce regard d'espérance et de foi qui invite à une transcendance, à porter le regard plus loin dans une approche qui est spirituelle et pas seulement matérielle.
Est-ce que concrètement, à la lecture des temps présents, sans perdre de vue, et vous l'avez rappelé, et vous le rappelez aussi dans votre ouvrage, ce sont les références, la Bible a parlé, Dieu aussi a parlé, que l'Église est-elle dans ce temps de l'apostasie, Père Charles Bonin ?
Alors,
quels sont les signes ?
Oui, bien sûr, il y a des signes des temps qui correspondent à ce que nous ont dit l'Écriture. Hein. Il y a des guerres et des rumeurs de guerre, il y a des épidémies. On se souvient encore récemment de l'épidémie de Covid-19, mais également les épidémies qui frappent aujourd'hui les animaux. Moi, je suis dans un diocèse, dans une paroisse rurale, donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et on voit bien qu'il y a des maladies qui se répandent et qui se répandent à l'échelle mondiale. Donc il y a une forme de globalisation du mal qui s'étend à l'échelle planétaire, qui est un des effets de la mondialisation. Mais au-delà de ça, on voit aussi qu'il y a des systèmes idéologiques qui se mettent en place, qui sont assez nouveaux. Le mal, il a toujours existé, il existera toujours. Il y aura toujours des guerres et des épidémies, bien sûr, des catastrophes naturelles également. Et de tout cela, l'Écriture parle. Mais ce qui est peut-être nouveau, c'est cette globalisation et cette systématisation du mal. Voilà, on peut le voir par exemple à travers l'affaire Epstein qui a défrayé la chronique encore récemment. Mais on peut le voir aussi avec des idéologies rampantes. Je pense en particulier à des questions comme le transhumanisme, la discussion que nous avons en France sur la fin de vie ou bien sur la question de la libre détermination du genre, où on voit bien qu'à travers toutes ces idéologies-là, c'est l'homme qui se fait lui-même pour lui, et aux dépens de Dieu et sans aucune référence transcendante à Dieu. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est un signe des temps qui est particulier pour notre époque, qui nous invite à être attentifs. Non pas pour en avoir peur, parce que on ne sait jamais jusqu'où le mal pourra aller, et peut-être que demain ça sera autre chose et encore pire, mais qui nous invite en tout cas à revenir à Dieu, voilà, à nous retourner vers lui, à écouter avec une confiance filiale sa parole, et il y a là un vrai motif d'espérance, parce que au fond, la vraie désespérance de l'homme, c'est lorsqu'il se détourne de Dieu. Voilà. Et ce qui lui donne de l'espérance, eh bien, c'est de savoir qu'il est aimé de ce Dieu bon qui le conduit vers la béatitude éternelle et qui l'appelle à cette béatitude. Donc notre conversion, elle est de se retourner vers Dieu, d'écouter sa parole avec confiance et de conduire notre vie selon ces principes bons qu'il nous a donnés, qui sont des principes d'humanité finalement.
Alors demain, peut-être on reviendra sur le titre de votre ouvrage, hein, mais vous y répondrez parce que votre titre est en point d'interrogation. Faut-il se préparer à la fin des temps? On va un peu approfondir, tout en gardant, et vous le rappelez aussi, c'est important, cette espérance dans la confiance. Et ce n'est pas rien ça. C'est aussi des clés aussi à préserver pour continuer au fond. Je le répète, hein, en terminant cet entretien du jour, nous sommes de simples pèlerins ici-bas, en route vers cette demeure et ce royaume dont vous avez parlé.
Absolument.
Ce royaume éternel. Donc voilà. Préparons-nous.
Hein, voilà.
On se prépare un peu avec vous. Et puis, chers auditeurs, il y a ce livre. Vous pouvez donc vous le procurer aux éditions Arthège. Faut-il se préparer à la fin des temps? Espérer à la lumière de l'Évangile. Merci, Père. À demain.
Merci Nathalie.